Place Info.
Et elles étaient quelques 13 500 personnes dans la rue derrière un mot d'ordre. Stop à l'islamophobie, une marche qui fait couler beaucoup d'encre. On entendra au cours de cette émission les manifestants, les slogans. Certains ont choqué, dont trop ému. Pourquoi tant de divisions? Pourquoi est-ce que la classe politique peine à parler d'un seul mot d'ordre lorsqu'il s'agit de lutter contre les discriminations? On va analyser ce terme, hein, islamophobie, qui lui aussi provoque un certain nombre de réactions. Et puis nous reviendrons sur le plan santé d'Agnès Buzyn. Elle doit annoncer un plan pour l'hôpital dans les tout prochains jours, alors que le projet de loi de financement de la sécurité sociale, lui, arrive au Sénat. Tout cela en débat avec nos invités du dimanche, François Hernenwein, rédacteur en chef et éditorialiste à La Croix.
Bonsoir.
Daïk Audoui, journaliste politique chez France Télé. Bonsoir Daïk. Geneviève Garrigos, à vos côtés, co-responsable d'Amnesty France pour le secteur Amérique. C'est bien cela, Geneviève, c'est bien cela. Dans quelques instants, nous rejoindra Amine El-Khatmi, président du Printemps Républicain et auteur de Combat pour la France chez Fayard. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio et à la télé, canal 27 de la TNT. Comptage du cabinet indépendant Occurrence, mandaté par plusieurs médias, dont France Info. 13 500 personnes ont donc manifesté aujourd'hui dans Paris derrière le mot d'ordre « Stop à l'islamophobie » des manifestants que l'on va écouter.
Je suis français et musulman, donc. Français et musulman, je suis musulman du cœur, mais je suis français et je défends le pays de France. Mais on est mal vu ici en France.
On a la nationalité française, parce que ça, je parle français comme tout le monde, comme les autres, il n'y a aucune différence en fait. C'est ce que je porte le voile, il n'y a pas de différence.
François Hernenwein, 13 500 personnes dans la rue. Avant de rebondir sur le fond de ce que l'on vient d'entendre, est-ce que c'est une manif réussie ou pas?
C'est difficile de l'arbitrer. 13 500 personnes, ça fait du monde, mais c'est pas l'émotion populaire rassemblant autour des discriminations faites aux musulmans. Donc, bilan contrasté, on va dire.
Bilan contrasté sur le fond des slogans et de ce que l'on a pu entendre. Qu'est-ce que vous, à La Croix, qu'est-ce que vous, comme journaliste, vous avez retenu de cette manifestation?
Moi, ce qui me frappe, la manifestation, je n'y étais pas, donc j'ai pas une perception très claire de ce qui s'est dit pendant la manifestation, mais j'ai vu l'appel qui a été adressé, et il posait un certain nombre de questions qui ont provoqué le retrait d'un certain nombre de partis, de personnalités, ou de mouvements de gauche, qui naturellement avaient commencé à prendre conscience que les discriminations adressées aux musulmans étaient quand même... une difficulté française, enfin un problème réel en France, et en bonne logique, on aurait pu souhaiter que le rassemblement soit plus large que ce qu'il a été ce dimanche.
Alors, c'est un mot d'ordre un peu restrictif d'une certaine façon
ou... Non, mais le choix des mots, je dirais aux organisateurs de la je donnerai aux organisateurs de la manifestation le conseil suivant. Si vous voulez rassembler autour d'un projet de manifestation pour la défense des droits des musulmans, proposez un texte rassembleur qui soit acceptable par le plus grand nombre de gens possible. La cause est bonne, mais encore une fois, la méthode compte aussi.
Geneviève Garrigos, co-responsable Amérique d'Amnesty. Vous, que retenez-vous de la manifestation?
Moi, j'ai vu une manifestation où il n'y a pas eu de débordement, où tout s'est bien passé. Et finalement, très bon enfant, avec des slogans. Bon, vous dites qu'il y a eu des slogans qui ont choqué. Moi, je ne les ai pas entendus. Et j'ai trouvé
qu'en fait,
il y avait une volonté d'affirmer effectivement que c'était la défense des droits, c'était la lutte contre les discriminations, et qu'il y avait vraiment tout ça s'est bien passé, malgré justement toutes les polémiques qu'il y avait pu avoir avant, et on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup, beaucoup moins de monde. Et donc, les organisateurs avaient annoncé un objectif de 10 000 personnes. Bon, de ce côté-là, ça a été réuni. Je pense que c'était une belle manifestation aujourd'hui.
Vous évoquez les critiques qui ont été faites en amont de la marche. Parmi celles-ci, il y avait la crainte que ce soit une manifestation anti-républicaine. Est-ce que ça a été votre sentiment à vous? Est-ce que pour vous, cette marche était républicaine? C'était une manifestation républicaine?
En tout cas, de ce que moi j'ai vu, parce qu'elle était quand même assez importante, cette marche. Oui, c'était une marche républicaine avec des gens qui affirmaient qu'ils étaient français et y compris qu'ils étaient pour la République et la laïcité.
Daïk Audoui, vous êtes journaliste politique à France Télé. On a vu effectivement un certain nombre d'organisations de gauche se retirer en amont en craignant des débordements. On entend ce que dit Geneviève Garrigos. Finalement, le pire n'a pas eu lieu. Est-ce que vous avez vu, vous, des choses qui vous ont...
Alors, je n'étais pas à la manifestation. Ce que j'en ai vu dans les médias ou sur les réseaux sociaux, on va dire qu'il y a
quelques pancartes peut-être qui faisaient juif hier, musulman aujourd'hui, qui peuvent prêter à débat, mais sinon il n'y avait rien de particulièrement choquant. Mais les organisations de gauche, ce sont les leaders qui sont retirés. Mais elles étaient quand même représentées, en fait. Toutes les organisations de gauche, à part le PS, mais qui n'avaient jamais appelé à manifester, les autres organisations de gauche qui avaient signé l'appel ont toutes été représentées par des élus, pas forcément par les premiers d'entre eux, sauf une, mais je pense qu'on va en reparler, Naïla, un peu plus tard, Jean-Luc Mélenchon, qui, lui, leader de la France Insoumise, a assumé sa signature, contrairement à d'autres leaders politiques de partis comme Europe Écologie ou le Parti communiste, dont les leaders, les patrons, ne se sont pas déplacés.
Geneviève Garrigos, je reviens vers vous au sujet de la manifestation, des slogans. On a entendu Daï Kodoui évoquer juif hier, musulman aujourd'hui. C'est ce type de slogan, c'est l'apparition de petites filles avec des étoiles jaunes qui ont pu choquer notamment une partie de l'opinion sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est des choses que vous avez vues ou est-ce que c'est des choses qui vous ont choqué dans les cortèges?
Moi, j'ai absolument pas vu ça. Et en fait, j'ai même pas entendu ces slogans. Moi, j'ai plutôt entendu les slogans que moi j'ai entendus. C'était plutôt laïcité, on t'aime, tu dois nous protéger. Donc, c'était plutôt de ce registre-là. Et si j'avais entendu d'autres slogans, je vous le dirais. Mais j'étais au cœur de la manifestation. Donc ça, je peux pas vous dire ce genre de choses.
Oui. Vous n'avez pas entendu cela. On entendra peut-être l'avis d'Amine El-Khatmi qui nous rejoint dans quelques instants, 20h10 sur France Info. Avant de poursuivre le débat, le rappel de l'information avec Guillaume Fariol.
Les bureaux de vote sont fermés en Espagne depuis maintenant 10 minutes. Élections législatives aujourd'hui, les quatrièmes en 4 ans. Le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez espère obtenir une majorité claire au Parlement. Les premiers résultats attendus dans la soirée. Au moins 20 morts au Bangladesh. Un cyclone frappe le pays. 2 millions d'habitants réfugiés dans des abris anti-tempête. Des milliers de maisons détruites. Vivre ensemble, c'est urgent. Halte à tous les racismes. Ces slogans dans les rues de Paris pendant une marche contre l'islamophobie. 13 500 manifestants selon le décompte du cabinet Occurrence pour France Info. Marche controversée, l'un des organisateurs, le collectif contre l'islamophobie en France, accusé d'être proche des frères musulmans. Près de 800 kilos de cocaïne retrouvés sur la façade atlantique depuis la mi-octobre. Le procureur de Rennes donne des précisions sur les paquets découverts sur des plages ces dernières semaines. Il ne faut pas les toucher, prévient la gendarmerie. Cette drogue très pure est dangereuse, il y a des risques d'émanation. Et puis la 13e journée de Ligue 1 de football. Rennes s'impose 3-1 contre Amiens. Victoire aussi de Montpellier face à Toulouse. Saint-Étienne gagne à Nantes. Et puis le choc Marseille-Lyon à venir. Coup d'envoi 21h.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h. Les informés. Neil Alatrousse.
La gauche en rang dispersée, certains de ses élus étaient cet après-midi dans les rues de Paris pour la marche contre l'islamophobie. D'autres ont préféré ne pas se joindre à la manifestation, gênés par l'évocation de loi liberticide dans l'appel qui avait précédé ce rassemblement par ce terme de loi liberticide. Jean-Luc Mélenchon, leader de la France Insoumise, lui, assume ce terme. Écoutez.
Les lois liberticides sont celles qui ont été votées au Sénat d'une manière absurde, qui interdit aux accompagnatrices voilées de se joindre aux enfants en sortie scolaire. Je dis liberticide parce que, et hypocrite, parce que si le Sénat avait voulu qu'il n'y ait aucun signe d'aucune sorte religieux à l'accompagnement des enfants, il l'aurait dit. Il l'aurait dit, et je sais pas quoi, moi, les crucifix, les kippas, que sais-je encore. Mais non, c'est le voile qui était en cause. Et puis surtout l'hypocrisie. Écoutez, si vous voulez des accompagnateurs qui ne portent aucun signe religieux, eh ben embauchez-les. À ce moment-là, ils seront fonctionnaires et ils ne seront pas autorisés à porter des signes distinctifs.
Daï Kodoui, journaliste politique à France Télévisions, est-ce que vous êtes convaincu par l'explication de texte de Jean-Luc Mélenchon?
Alors, je ne vais pas être convaincu ou pas. Simplement, il parle de loi liberticide évoquant les lois votées au Sénat contre le port du voile lors des sorties scolaires. Or, les organisateurs de l'appel, quand on leur demandait quelles étaient les lois liberticides, ils évoquaient les lois de 2004 et de 2010. Pas celle sur la laïcité du début du XXe siècle, pour bien préciser que c'était pas une manifestation contre la laïcité, mais néanmoins, il précisait que les lois liberticides, c'était celles de 2004 et de 2010. Donc, Jean-Luc Mélenchon le sait très bien. Simplement, il ne veut pas être accusé de manifester contre la laïcité. Donc, il fait référence au dernier événement sur ce thème, qui est donc un amendement déposé par les sénateurs, on le rappelle, où le LR a la majorité, mais qui n'a pas été suivi ensuite par l'Assemblée nationale. Où
c'est un texte, ce n'est pas encore une loi.
C'est voilà.
C'est un texte et pas encore une loi.
Si je comprends bien ce que dit Daï Kodoui, Jean-Luc Mélenchon, par cette explication, se raccroche, allez, si pour parler un peu trivialement, se raccroche aux branches, ça a aussi
oui,
été votre sentiment.
Je pense que la France insoumise n'a pas eu toujours cette transparence sur le sort fait aux musulmans français et en France. Donc, cette prise de conscience m'émeut. Mais l'autre point qui me paraît le plus significatif, Daï vient de le dire, c'était pas une manifestation contre la loi de 1905. Et ça, c'est très intéressant parce que je pense que la loi de 1905 est le meilleur bouclier aujourd'hui pour les musulmans en France. Et c'est sur cette loi qu'ils doivent s'appuyer. Pour le respect du droit, personne ne peut être discriminé à partir de ses croyances religieuses. C'est ce que dit la loi. Donc, c'est la loi de 1905 et sa plasticité formidable a permis des adaptations tout au long du XXe siècle, protectrice de la liberté de croire ou de ne pas croire. Et ce progrès, cette dynamique législative au fil du XXe siècle sont des atouts formidables pour les croyants. Et je pense que, d'ailleurs, ça a été dit pendant la manifestation, je l'ai compris ça, la loi de 1905 est, me semble-t-il, un excellent bouclier pour les musulmans, contre ceux qui ont une interprétation restrictive et fausse juridiquement de ce qu'est cette loi de 1905.
Geneviève Garrigou, vous voyez...
Oui, en fait, et c'est ce que je disais justement précédemment, c'est-à-dire que les personnes qui étaient là ont réaffirmé leur attachement en disant « laïcité, je t'aime ». Et c'est vrai que... Tout le débat et une partie de la polémique auquel on a assisté depuis plusieurs semaines, et pas uniquement par rapport à cette manifestation, et à laquelle on assiste d'année en année, c'est qu'est-ce que la loi de 1905 ? Or, la loi de 1905, c'est la neutralité de l'État vis-à-vis des religions et le fait que ça respecte la liberté d'expression et la liberté de croyance des personnes. Et donc, à partir de là, c'est un fondement essentiel parce que ça respecte les droits des personnes. Et c'est quelque chose de très très fort auquel nous sommes tous attachés.
Laïcité, je t'aime, il ne faut pas être dupe des slogans. On a bien vu qu'il y avait une rectification, une correction par rapport à l'appel des organisateurs, justement, de ne pas donner des slogans qui puissent être contestés. Je voudrais juste revenir à Jean-Luc Mélenchon, puisque j'ai critiqué son discours dans cette conférence de presse juste avant. Simplement, lui, il est venu à la manifestation. Il a au moins assumé ce qu'il avait signé. Ils n'ont pas été nombreux à gauche parmi les grands leaders des partis. Lui, il l'a fait. Alors, on en pense du bien ou du mal, hein, de cette... est-ce que c'est un reniement, une trahison par rapport à l'affirmation de la laïcité comme valeur essentielle de la République qu'il pouvait défendre ? Mais néanmoins, lui, il l'assume. En étant présent, il ne s'est pas défilé.
Justement, sur l'acceptation de ce terme de laïcité, on voit que le définir... cette division à définir le terme, elle est transpartisane chez la France insoumise, au PS,
bien sûr, mais
chez la République
elle
en marche.
Elle divise tous les camps, mais la difficulté avec la loi de 1905, c'est tous les gens qui ne veulent pas comprendre que l'expression des croyances dans l'espace public est parfaitement légitime avec la loi de 1905. L'État est laïque, mais la société, elle ne l'est pas. Si on s'amusait ou si on... par pur délire, on voulait supprimer tous les signes religieux de l'espace public, la France serait en ébullition, et même techniquement, ça serait pas possible. Est-ce qu'il faut raser les clochers des églises ? Signes religieux éminents.
Lors du débat de la loi 1905, on voulait supprimer le port de la soutane dans l'espace public.
Mais on l'a pas fait.
Et on l'a pas fait.
Rendons hommage, dans un esprit de concorde, à l'époque, la loi de 1905 a posé un certain nombre de problèmes, mais entre les tenants d'une laïcité intransigeante et d'autres, un compromis a été trouvé. Et je me place dans l'histoire longue. Au XXe siècle, sa plasticité a été formidable. Il y a eu la loi Debré sur l'enseignement libre, il y a eu l'installation des carrés musulmans, etc. Donc cette loi a été capable d'intégrer à la fois les évolutions sociales en France, les évolutions des mentalités, et aujourd'hui, je pense qu'il faudrait être fou, à partir d'une lecture restrictive de ce qu'est la liberté de croyance en France, de vouloir toucher à cette loi de 1905 pour... pour réduire les libertés des uns et des autres.
Tiens, François Hollande, une question pour vous. Interrogé ce matin, le secrétaire d'État à la jeunesse, Gabriel Attal, voyait dans cette manifestation du jour une manifestation communautariste. Est-ce que c'est la même chose, le communautarisme et l'atteinte à la laïcité, ou est-ce que vous voyez deux termes là qui sont connexes mais qui ne se rejoignent pas ?
Je fais une réponse dilatoire, mais je vous dis quand même le fond de ma pensée. Si on devait faire une cartographie du communautarisme en France, il n'y aurait pas que les musulmans qui seraient concernés par cette cartographie. Le communautarisme gagne des religions autres que les musulmans, gagne des groupes sociaux.
Vous dites que c'est largement partagé entre religions ?
Par les questions religieuses, donc de toute façon, l'argument du communautarisme est un argument étroit. Alors,
mais ça ne répond pas à ma question, est-ce que c'est une atteinte à la laïcité, le communautarisme ?
Écoutez, de manière pragmatique... La France a intégré des vagues de migrants venus de différents pays du monde. Il n'est pas scandaleux que... ayant la nationalité française, vivant sur le territoire national, ils puissent vivre les traditions de leur pays d'origine. Personne n'a contesté aux réfugiés chiliens le droit de se regrouper pour parler de ce qui était arrivé après l'assassinat du président Pinochet. Enfin, tout ça, c'est un peu ridicule, la manière dont ce débat se déploie.
Geneviève Garrigos, même question.
C'est-à-dire que, en fait, c'est assez intéressant, parce que quand on voit les Français vivre à l'étranger, on peut dire aussi qu'à ce moment-là, ils sont atteints de communautarisme parce qu'ils vivent généralement.
New York, par exemple.
Ils vivent très, très souvent sur leur communauté. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que dans le débat qu'il y a eu au niveau justement de cette manifestation et de l'appel à manifester, c'est que on nous a, moi qui suis co-signataire à titre personnel de cet appel, on nous a traité de communautariste et de soutenir le communautarisme. Moi, je trouve que c'est une façon de nous discréditer et ça, c'est extrêmement douloureux. Moi, je suis quelqu'un qui milite pour les droits humains partout dans le monde et dans toutes les situations et tous les droits humains. Pour les personnes LGBT, pour les femmes, etc. Donc, me faire renvoyer à cette image que je serais dans le communautarisme, c'est quelque chose d'assez choquant. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si dès qu'il y a ce type de manifestation, on nous dit de ne pas y aller parce qu'on va soutenir le communautarisme, en fait, on pousse les gens aussi vers le communautarisme. Et au contraire, il faut de l'ouverture et de montrer que finalement, on partage les valeurs. Et quand on a justement des appels à partager ces valeurs, il faut qu'on soit tous ensemble pour les partager. Et pour moi, ça, c'est très important.
Et dans quelques instants, nous entendrons Amine El-Khatmi, président du Printemps républicain, qui nous a rejoint. Avant cela, 20h20 sur France Info, le rappel de l'information avec Guillaume Farriol.
Emmanuel Macron à Berlin ce soir pour les 30 ans de la chute du mur. Le président de la République dîne avec Angela Merkel. Très certainement au programme des discussions, l'OTAN, l'organisation est en état de mort cérébrale pour le chef de l'État, il l'a dit cette semaine. La chancelière allemande, elle, défend un pilier central de la défense européenne. Les musulmans sont stigmatisés, on ne va pas chipoter sur l'emploi ou non du terme islamophobie. Les mots de la sénatrice Europe Écologie Les Verts, Esther Benbassa, sur France Info. Elle a participé cet après-midi à la marche contre l'islamophobie à Paris, comme plus de 13 000 personnes. Il devait être aux 20h de TF1 ce soir, mais Jean Dujardin annule. Il ne vient pas faire la promotion du film J'accuse, qui sortira en salle mercredi. Long métrage signé Roman Polanski. Le cinéaste fait face à de nouvelles accusations de viol. Pete Doherty, de nouveau en garde à vue à Paris, cette fois après une bagarre la nuit dernière. Le chanteur britannique déjà interpellé cette semaine en possession de cocaïne. On était vraiment là pour aller chercher notre rêve. Tout ensemble, la joie de la tenniswoman Caroline Garcia. L'équipe de France remporte la Fed Cup face à l'Australie. Troisième sacre pour les Bleus après ceux de 1997 et 2003.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Neil Alatrousse.
Stop à l'islamophobie, le mot d'ordre derrière lequel ont défilé quelques 13 500 personnes à Paris, manifestation aussi à Toulouse et à Marseille. Ce terme même, Guillaume Farriol vient de le rappeler, ce terme même d'islamophobie est contesté au sein du gouvernement. Certains l'utilisent et d'autres l'évitent scrupuleusement.
Elle est insupportable parce que vous avez dans cette manifestation, et pas uniquement dans ceux qui vont être dans la rue, dans ceux qui ont signé l'appel à manifester, vous avez des gens qui incarnent aujourd'hui ce qu'est le communautarisme islamiste.
Je pense qu'il y a beaucoup d'ambiguïté dans cette marche
Évidemment, lutter contre l'islamophobie, contre l'antisémitisme, contre toutes les formes de racisme, on peut qu'être d'accord.
Vous venez d'entendre Gabriel Attal, secrétaire d'État en charge de la jeunesse, qui lui, au cours de cette interview chez nos confrères d'Europe 1, évoque plutôt la discrimination contre les musulmans. Et juste après, Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire. Amine El Khatmi, président du Printemps républicain, bonjour. Islamophobie, haine, stigmatisation ou discrimination des musulmans, quelle différence de fond ?
Il y a une différence, c'est que autant évidemment le combat contre la haine anti-musulman est un combat qui doit rassembler la nation tout entière, il n'y a pas de débat là-dessus, et lorsque l'on s'en prend à des individus en raison de leur foi, comme cet attentat à Bayonne contre ces deux Chibanis qui étaient là et qui se font tirer dessus, c'est absolument épouvantable, et nous devons dans ces circonstances leur dire notre affection, notre solidarité comme compatriotes. Et je suis triste ce soir parce que finalement, ce rassemblement ce soir, il aurait pu être beaucoup plus large, beaucoup plus grand, beaucoup plus massif. La République aurait pu se lever contre la haine anti-musulman. Mais les organisateurs ont fait un choix, c'est de poser un mot d'ordre dont ils savaient de fait qu'il créerait la polémique, car la définition même que l'on met derrière l'islamophobie donne lieu à des interprétations qui divergent au sein de la gauche française. Certains effectivement expliquent que c'est la haine anti-musulman. Moi, je considère que c'est un concept qui a été imposé dans le débat public par des islamistes ou des alliés de l'islam politique et qui vise à empêcher, à taire la critique des religions. Moi, je n'ai pas envie qu'en France, on puisse être dérangé, qu'on puisse être empêché de critiquer les religions.
Et réponse de Geneviève Garrigos qui, elle, a signé cet appel.
Oui, en fait, c'est très intéressant parce que c'est quand même assez un débat franco-français. Parce que quand on regarde au niveau international, que ce soit au niveau de l'OSCE, que ce soit au niveau du Conseil de l'Europe, et en France, par exemple, la CNCDH, on voit bien que ce terme est utilisé.
Le Conseil national des droits de l'homme.
Commission nationale des droits de l'homme, j'en suis membre. Excusez-moi. Mais et pourquoi c'est utilisé ? Parce que et c'est très intéressant parce qu'on dit ce n'est pas une phobie. Justement, au niveau de l'OSCE, qu'est-ce qui est marqué ? C'est la peur qui n'est pas justifiée, une peur injustifiée de l'islam ou des musulmans qui va entraîner des discriminations, des propos de haine, etc.
Et donc, pardon, ce n'est pas la même chose. Précisément, à l'instant, ce que vous venez de dire démontre toute l'importance du débat. La peur de l'islam et la peur des musulmans, ce n'est pas la même chose. On ne s'en prend pas. Permettez-moi, je vous ai interrompu. Ce n'est pas très courtois de ma part.
Non, ce n'est pas très courtois de votre part parce que j'aurais aimé finir mon propos.
Je vous en prie.
Voilà. Donc, et en fait, c'est une définition. Mais on parle aussi de LGBT-phobie, on parle de pauvrophobie, on parle de putophobie. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à mettre ce mot-là. Et j'entends ceux qui disent « oui, mais c'est utilisé contre ceux qui critiquent l'islam ». Pour moi, et je ne suis pas la seule, et c'est ce qu'on voit là aussi au niveau international, c'est pas parce qu'il y a certaines personnes qui détournent le sens, qui vont l'utiliser dans un autre sens, que pour autant on ne peut pas l'utiliser. Parce que quand on commence à dire, et c'est là aussi la difficulté, c'est la haine, c'est les discriminations, c'est les propos, c'est ceci, on ne se perd. En fait, on n'a pas de définition commune. L'avantage, et c'est pour ça que la CNCDR justement l'a retenu, c'est que avec islamophobie, c'est rentré dans les termes, c'est très clair, et en un mot, on peut exprimer des choses. Que certains le détournent du sens, c'est une chose, mais il y a beaucoup de mots qui sont détournés de leur sens, et c'est pas pour ça qu'on arrête de les utiliser.
Le simple fait que nous ayons un débat ce soir ici, et depuis 4 jours, sur le mot d'ordre de cette manifestation, prouve et démontre que ce n'est justement pas clair. Vous venez de dire que c'était clair. Et encore une fois, il faut faire une différence nette entre la peur des musulmans. On n'a pas à avoir peur des individus en raison de leur croyance. C'est totalement absurde. Il n'y a pas à avoir peur des individus. En revanche, je conçois qu'on puisse avoir peur d'une religion. On a le droit. Il y a des gens dans ce pays qui ont peur des religions, qui ont envie de s'en moquer, qui ont envie d'en rigoler. Je rappelle tout de même qu'un certain nombre de gens, le 7 janvier 2015, ont été assassinés parce qu'ils s'étaient moqués d'une religion, qu'ils ont dessiné le prophète et que quelques-uns leur ont dit « vous n'avez pas le droit de dessiner notre prophète ». Donc, on a le droit, de manière républicaine et tout à fait normale, d'avoir peur d'une religion. La différence, c'est quand on s'en prend aux individus. Et c'est pour ça que l'utilisation, le choix qui a été fait d'utiliser ce terme dont les organisateurs savaient bien qu'il ferait polémique. Ils voient bien les débats au sein de la gauche depuis des années qui nous agitent les uns et les autres. Ils auraient appelé à manifester contre la haine anti-musulmans, contre le racisme. Nous aurions été sans doute 5 fois, 10 fois, 20 fois plus nombreux. C'est un choix malheureux et je le regrette.
Et c'est un choix, donc nous continuerons à débattre. On va s'arrêter un court instant dans les informés. On continue à débattre de cette marche, de peut-être aussi l'organisation de l'islam de France. Y a-t-il en France une haine anti-musulman ? Suite des informés dans quelques instants, juste après la météo et le journal. Mais d'abord le trafic avec Maureen Suignard, un accident au sud d'Amiens.
Oui, sur l'A16 à Hébécourt, dans le sens sud-nord, accident entre deux voitures, prudence si vous êtes dans le secteur. Attention également sur l'A72, cet accident corporel dans le département de la Loire, à l'hôpital Le Grand, au nord de Saint-Étienne. Une voie est neutralisée dans le sens est-ouest. Et puis en région parisienne, plusieurs accidents en cours, notamment ce carambolage sur l'A86 extérieure à Villeneuve-la-Garenne. Cela vous ralentit en amont une demi-heure de bouchon à partir de la Courneuve. Un accident entre trois voiture également, cette fois au sud-est de Paris, sur l'A4 à Saint-Maurice, quand vous quittez la capitale.
France Info Météo, avec CIC Banque Privée. Banque privée du dirigeant d'entreprise. Parce qu'anticiper vous ouvre de nouvelles perspectives.
Les prévisions sur France Info, Jean-Michel Golinski.
La séquence de fortes pluies d'orages qui s'abat sur l'est de la Corse ce dimanche en soirée va continuer demain une grande partie de la journée tout en s'estompant progressivement au cours d'après-midi. En marge des Alpes à la Provence, les pluies seront parfois soutenues avec de la neige à partir de 1400 mètres. À l'autre extrémité du pays, une zone de pluie va aborder très tôt la façade atlantique puis rejoindre les régions de l'est en toute fin de journée, provoquant des chutes de neige à partir de 1000 mètres sur le massif central, 1400 sur les Pyrénées. Avant l'arrivée de ce temps maussade sur la moitié est, la grisaille sera particulièrement tenace. Et à l'arrière, sur le quart nord-ouest, en cours d'après-midi, installation d'un ciel d'averse et d'orage poussé par un vent de nord-ouest à 90 km à l'heure sur les côtes. En fin de nuit, il faudra se méfier des gelées sous abri entre 0 et moins 2 degrés, notamment vers Nancy, Lyon, Strasbourg, Dijon et Besançon. L'après-midi, les maximales vont souvent gagner 2 degrés par rapport à aujourd'hui.
Et 20h30 minutes sur France Info, toute l'information avec Olivia Ferrandi, bonsoir.
Bonsoir, le match s'annonce tendu entre Marseille et Lyon ce soir au Vélodrome en Ligue 1 de football. À une demi-heure du coup d'envoi, le bus des supporters lyonnais a été caillassé, Valérie Lombardo.
Oui, effectivement, le quart de l'Olympique lyonnais a été visé par plusieurs projectiles. Trois vitres ont été très sérieusement endommagées, dont celle à proximité de laquelle le gardien de but de l'Olympique lyonnais, Anthony Lopez, est habituellement assis. Nous sommes tombés dans un véritable guet-apens. Si ça continue comme ça, nous ne jouerons pas à même menacer Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique lyonnais, à la descente du quart. Pour l'instant, les deux équipes sont bien sur la pelouse en train de s'échauffer, mais c'est vrai que cet Olympico, ça bouillant entre Marseille et Lyon.
Match à vivre en direct tout à l'heure sur France Info à partir donc de 21h. Les joueuses de l'équipe de France de tennis seront reçues mardi à l'Elysée après leur victoire en finale de la Fed Cup ce matin contre les Australiennes. C'est la troisième fois que la France gagne cette compétition. Près de 700 kilos de cocaïne saisis dans le port du Havre ainsi que des armes, résultat d'une enquête menée conjointement avec le Brésil d'où provenait la drogue. Trois individus ont été arrêtés. Et puis sur les plages de l'ouest de la Vendée au Pays Basque, eh bien des ballots de cocaïne continuent d'arriver au gré de la houle. C'est certainement un bateau de trafiquants qui a perdu sa cargaison. Près de 800 kilos de drogue déjà retrouvés par les forces de l'ordre, notamment en Charente-Maritime. Marie-Laurence Dalle.
C'est un promeneur qui a donné l'alerte en début de semaine dernière. Il venait de trouver un paquet sur une plage de la Tremblade près de Royan qui contenait 6 kilos de cocaïne, selon la brigade de gendarmerie de Rochefort, qui refuse de donner d'autres précisions, notamment sur le lieu de la découverte. Le chef d'escadron Burette craint qu'il y ait une ruée sur les plages en ce week-end du 11 novembre, comme ça avait été le cas en Gironde il y a quelques années, mais il souligne qu'un seul paquet est arrivé sur la plage de la Tremblade. La seule chose à faire en cas de découverte, dit-il, c'est de prévenir le 17. Les mairies ont été alertées. Certaines, comme celle de Saint-Trojan-les-Bains sur l'île d'Oléron, organisent des patrouilles régulières. Mais on ne peut pas patrouiller sur tout le littoral, souligne le chef d'escadron Burette. Et il ajoute que transporter ce type de produit est un délit passible de 10 ans de prison.
Après sa remise en liberté hier, le rocker britannique Pete Doherty a de nouveau été arrêté à Paris aujourd'hui. Cette fois, après une bagarre, il était ivre. Jeudi soir, il avait été interpellé à Pigalle en possession de cocaïne. 13 500 manifestants à Paris, quelques centaines à Marseille et Toulouse. Mobilisation en demi-teinte pour la marche contre l'islamophobie. Marche qui intervenait après l'attaque contre la mosquée de Bayonne fin octobre et après la très longue polémique autour des mamans voilées qui accompagnent leurs enfants en sortie scolaire. À l'international, on attend ce soir les résultats en Espagne. Après les législatives anticipées, il s'annonce serré pour le Parti socialiste du Premier ministre sortant qui est donné favori, sans pour autant parvenir à obtenir la majorité absolue. En Roumanie, le président libéral sortant serait largement en tête ce soir à l'issue du premier tour de la présidentielle, selon deux instituts de sondage, Klaus Ioannis, pro-européen. 20h33, la suite des informés. Naïla Latrousse, tout de suite.
Les informés, Naïla Latrousse.
Avec toujours François Arnenwein, rédacteur en chef et éditorialiste à La Croix, Daï Kodoui, journaliste politique de France Télé. Nous ont rejoint Michel Taub, bienvenue, fondateur du site d'information Opinion Internationale. Bonsoir. Auteur du livre « La face cachée des Émirats Arabes Unis », apparaître au Cherche Midi.
Au Cherche Midi, jeudi prochain.
Jeudi prochain, et Armelle Le Goff nous a rejoint également, directrice de la rédaction de 20 minutes. Bonsoir Armelle. Le débat se poursuit autour de cette marche contre l'islamophobie. Stop à l'islamophobie. Quelques 13 500 personnes dans Paris, d'après le cabinet Occurrence, cabinet indépendant mandaté par plusieurs médias, dont France Info. Et parmi les organisateurs de cette marche, le collectif contre l'islamophobie en France, CCIF, ou des personnalités soupçonnées d'être proches des frères musulmans. Michel Taub, je me retourne vers vous. Quelle est la réalité de ces accusations ou de ces soupçons? Pourquoi le CCIF est une organisation si contestée dans le débat public?
Elle est contestée, mais c'est pas que le CCIF. Son président Marwan Mohamed, qui était très discret dans les médias, mais qui était présent évidemment à la marche, il a également créé une autre organisation qui s'appelle la Plateforme Les Musulmans, qui est co-initiatrice également de ce rassemblement d'aujourd'hui. Et en fait, cette plateforme Les Musulmans, c'est une machine de guerre contre une autre institution qui était totalement absente de la marche et qui est le CFCM, le Conseil français du culte musulman. Si ça avait été une marche pour dénoncer le racisme à l'endroit des musulmans, la première organisation qui aurait appelé à manifester, c'eût été le CFCM. Et le CFCM était totalement absent de cette marche. Pourquoi? Parce que M. Mohamed, avec le CCIF et la plateforme Les Musulmans, essaye d'influencer la communauté musulmane de France pour la pousser vers un islam plus radical, contre l'instance représentative qui est reconnue par l'État, qui rencontre le chef d'État. Donc, au-delà d'un rassemblement 13 000 citoyens français qui voulaient dire non au racisme contre les musulmans, certes, mais l'appel lui-même, le texte de l'appel et ses initiateurs, ce sont des personnes qui ont une stratégie d'influence de la communauté musulmane pour les pousser vers un islam plus radical. Et ça, c'est inadmissible. Et c'est pourquoi ceux qui s'en sont rendus compte, le Parti Socialiste et beaucoup d'autres, n'ont pas accepté de tomber dans le panneau.
Si je comprends bien, ça veut dire que derrière les divisions qu'on a pu voir, et notamment politiques, à gauche, on retrouve des divisions dans l'organisation même de l'islam en France, François Arnenwein.
C'est un vrai sujet, ça. D'ailleurs, il y a la question de l'organisation. Qui finance la construction des mosquées? Alors, le gouvernement a des projets là-dessus pour nationaliser un peu l'islam de France. Et je pense que cette réflexion est utile parce que celui qui paye décide. Et quand vous avez un certain nombre d'émirats sur lesquels vous venez d'écrire un livre qui contribue à la radicalisation de l'islam en France, évidemment, la question se pose des financements.
Armelle Le Goff, vous voulez réagir? Les organisations musulmanes n'échappent pas à l'entrisme d'une certaine façon de franges plus politisées?
Sans doute, mais c'est pour ça qu'en 2003, l'initiative de Nicolas Sarkozy de créer le CFCM était intéressante. Sur le CCIF, juste pour revenir là-dessus, je pense que le soupçon concernant cette organisation vient du fait qu'elle a été créée en 2003 et qu'elle a été créée contre la loi de 2004 sur les signes religieux à l'école. Donc c'est vraiment une organisation politique et pas une organisation qui visait à combattre l'islamophobie, comme son acronyme le dit. Nous, on a interrogé à 20 minutes, on a interrogé Bernard Godard, qui a travaillé de 2002 à 2015 au ministère de l'Intérieur, donc qui a participé à la mise en place du CFCM avec Nicolas Sarkozy. Lui, il dit que c'est pas du tout une organisation qui serait plus ou moins liée aux frères musulmans. Donc c'est intéressant de l'entendre là-dessus, mais en tout cas, je pense que la genèse de la création de cette organisation, clairement, avait des visées politiques.
Pour vous, Michel Taub...
Par exemple, on prend la question du port du voile. Il y a certains musulmans qui considèrent que c'est une prescription religieuse. D'accord ? Que c'est un devoir pour une femme musulmane de porter le voile. C'est un droit et un devoir. Et il y en a d'autres qui considèrent que ça n'est pas une prescription religieuse, que ce n'est pas une obligation, que ça n'entre pas dans les préceptes fondamentaux de l'islam. Il y a des débats multiples au sein de l'islam là-dessus. Et c'est vrai que les organisateurs de ces manifestations étaient plutôt du côté d'une version plus radicale, plus rigoriste, alors qu'il y en a d'autres, plus modernistes, en fait, qui ne se sont pas du tout retrouvés dans cet appel, qui, encore une fois, je vais vous dire, moi, j'ai aucun problème à dire, au lendemain de l'attentat de Bayonne, c'est toute la France qui aurait dû manifester pour condamner cet attentat. Parce que c'était un acte raciste, un crime raciste. Et cette manifestation n'a pas eu lieu. Et le CCIF et des organisations d'extrême gauche se sont engouffrés dans cette absence de d'émoi national pour organiser une manifestation qui ne concernait pas le racisme anti-musulman, mais qui concernait ces querelles entre les modernistes et les plus rigoristes de l'autre dans l'islam. Parce que c'est ça le combat, et je le répète, si ça avait été contre le racisme contre les musulmans, le CFCM aurait été le premier à appeler à manifester, et ils n'ont même pas été invités, d'une part, et ils n'ont bien entendu pas voulu s'y joindre à cause de ce texte fort tendancieux et un texte en finale communautariste.
Je vous relance sur le livre que vous écrivez, La face cachée des Émirats arabes unis. Est-ce que l'islam aujourd'hui en France est un enjeu de pouvoir pour un certain nombre de puissances étrangères, que ce soit les Émirats, le Qatar, la Turquie, d'autres pays? François Ehrenwein évoquait il y a quelques instants la question du financement.
En tout cas, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite qui, il y a un mois, a co-organisé à Paris une conférence sur le dialogue interreligieux. Quelle leçon de la part d'un des pays les plus ultra-conservateurs dans le monde. Effectivement, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite sont des pays qui ont des stratégies d'entrisme et d'influence pour promouvoir un islam rigoriste qui n'est pas celui que l'on veut en France. Ce que l'on veut, c'est un islam de France piloté, conçu, dirigé par des musulmans de France et qui soit, si possible, comme la majorité d'entre eux, attaché à un islam moderne, un islam contextualisé, comme c'est le cas par exemple au Maroc, où effectivement l'islam s'adapte au XXIe siècle, comme se sont adaptées au XXIe siècle toutes les religions monothéistes. C'est ça qui est l'enjeu aujourd'hui, et on n'a pas à aller emprunter ailleurs, et encore moins dans les pays du Golfe, la façon dont on doit pratiquer l'islam.
Et le débat va se poursuivre tout au long des semaines prochaines, puisque la gauche appelle à une autre manifestation dans les prochains jours avec un mot d'ordre qui serait la lutte contre, pour le coup, les discriminations faites aux musulmans, mais également contre l'antisémitisme et le racisme. On va passer au plan d'urgence, le dernier plan d'urgence pour la santé, juste après le rappel de l'info, 20h40 sur France Info. Guillaume Fariol nous a rejoint.
Jean-Luc Mélenchon salue sur Twitter une magnifique journée d'unité républicaine. Le chef de file de la France Insoumise se félicite après la marche contre l'islamophobie à Paris. 13 500 manifestants. Une marche pourtant controversée sans le Parti Socialiste. La gauche divisée, l'un des organisateurs est accusé de lien avec les frères musulmans. Le parquet de Rennes ouvre une enquête après la découverte de près de 800 kilos de cocaïne sur les plages de l'Atlantique. Des paquets retrouvés depuis mi-octobre, probablement tombés d'un bateau de trafiquants. Les autorités alertent sur les risques sanitaires en cas de découverte. Il faut immédiatement appeler le 17. L'Espagne attend maintenant les résultats des élections législatives, les quatrièmes en 4 ans, pour tenter de mettre fin à l'instabilité politique dans le pays. Le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez espère décrocher une majorité claire au Parlement. Il veut, dit-il, remettre l'Espagne en marche. Les premiers résultats attendus dans la soirée. Angela Merkel réaffirme son soutien à l'OTAN. C'est un pilier de la défense européenne, dit la chancelière allemande. Elle répond à Emmanuel Macron pour qui l'Alliance Atlantique est en état de mort cérébrale. Ce sont les mots du chef de l'État cette semaine. Les deux dirigeants dînent ensemble ce soir à Berlin. Le top 14 de rugby, 9e journée. Lyon renverse La Rochelle 45-17. Les Lyonnais confortent leur place en tête du championnat. Autre résultat d'aujourd'hui, le Racing 92 qui s'impose face au Stade français.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h. Les informés. Neil Alatrousse.
Avec cette question, l'État doit-il reprendre la dette des hôpitaux? Elle culmine à 30 milliards d'euros. Un geste de Bercy permettrait de redonner de l'oxygène aux établissements publics, mais il faudra bien plus pour le professeur Antoine Pellissolo, porte-parole du collectif Interhôpitaux.
Avoir moins de dettes à rembourser, c'est sûr que ça donnera des capacités d'investissement et ça peut desserrer un petit peu les taux, mais c'est vraiment largement insuffisant par rapport aux besoins immédiats. Nous avons des besoins vraiment de fonctionnement immédiat pour à la fois les personnels, leur statut et les embauches.
Et ce soir, Bercy dit que reprendre la dette, il n'en est pas question. La piste était pourtant avancée dans plusieurs journaux, Les Échos fin octobre, Le Journal du Dimanche aujourd'hui, et puis Niette du ministère des Finances. Daïko Dui, vous êtes journaliste politique, comment on explique cette séquence?
Il faut savoir où le JDD a eu ces informations, parce que le JDD le précise, hein, rien n'avait été encore arbitré. Donc est-ce que c'est pour mettre des thèmes dans le débat public à chaque fois pour faire sortir du bois Bercy, pour peut-être que Bercy dise non à la dette, qui est quand même un serpent de mer, hein, cette reprise de la dette, pour que Bercy donc dise non à cette reprise de la dette, pour pouvoir dire oui à une augmentation, non pas des salaires. Parce que d'après le JDD, c'est une augmentation des primes, notamment pour les jeunes médecins, pour éviter qu'ils aillent voir du côté du privé. Donc voilà, c'est le jeu comme ça. On est dans les derniers arbitrages par rapport à un budget. On sait que tous les ministres combattent contre Bercy, qui est le grand méchant et qui leur donne jamais assez d'argent. Et donc voilà, c'est le
jeu. C'est l'illustration d'un bras de fer.
D'un bras de fer, voilà, qui continue, hein, puisque l'article rappelle que M. Darmanin aurait offert des fleurs à Mme Buzyn après avoir dit non un peu vertement. Mais voilà, donc on est dans ce jeu classique. Mais encore une fois, le JDD présentait encore une fois comme des pistes ce qu'il annonçait ce matin, et notamment cette reprise de la dette par l'État.
Et Armelle Le Goff, directrice de la rédaction de 20 minutes, on évoquait aussi des tensions pour le coup directes entre Agnès Buzyn et Gérald Darmanin.
Oui, et puis le titre du JDD, c'est les guerres d'Agnès Buzyn. Donc là, on voyait que vraiment, effectivement, c'était le bras de fer avec Bercy et d'obtenir un budget conséquent pour les hôpitaux et pour l'hôpital public. Et donc si, visiblement, cette reprise de la dette n'est plus possible...
C'est une mauvaise nouvelle, pour le coup, ce niet de Bercy pour Agnès Buzyn?
Pour l'hôpital, c'est une très mauvaise nouvelle, parce que les difficultés sont réelles. Effectivement, il y a le jeu classique des revendications catégorielles des uns des autres, mais les difficultés de l'hôpital sont réelles. La crise aux urgences est manifeste. Si vous vous retrouvez dans des urgences de nuit... Vous savez bien la difficulté qu'il y a, mais c'est pas l'incompétence des gens qui sont sur place, c'est le manque de moyens, et aussi un système de santé qu'il faudrait repenser. Est-ce que les médecins libéraux n'ont pas un rôle à jouer aussi dans la veille aux urgences, enfin, ou en tous les cas, les gardes de nuit, parce que toute la pression se concentre aujourd'hui sur les urgences des hôpitaux, et la situation est objectivement intenable. Mais Je crois que le fond du débat, là où on est aujourd'hui, c'est quand même cette nécessité dans laquelle se trouve le gouvernement, pardon, Emmanuel Macron, de desserrer l'étau sur tous les fronts qui concernent la gestion de l'État. Il y a les hôpitaux, les policiers, etc. Je n'allonge pas la liste. Et l'hôpital serait quand même le maillon où il serait plus politiquement jouable de lâcher du lest, parce que les Français sont d'accord avec les revendications des urgences, des médecins, etc., des médecins de l'hôpital public, et donc considéraient que là, ça ne serait pas une capitulation en race campagne. Donc moi, je pense que l'arbitrage va se faire. De cette manière-là, on va donner plus pour les hôpitaux, et puis on va essayer de durcir un peu la position sur les gros dossiers qui viennent, les retraites, etc.
Michel Taube.
En fait, il faut quand même se rendre compte que la grève dans les services d'urgence est aujourd'hui la grève qui a le plus prospéré en France de tous les secteurs d'activité. Ça fait 6 mois que cette grève existe, qu'elle se développe, qu'un collectif s'est créé extrêmement efficace, le collectif Interurgence. Et depuis un mois, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette grève des urgences s'étend à l'ensemble des hôpitaux. Il y a un collectif qui s'est créé, Inter-Hôpitaux, qui va donc bien au-delà des services des urgences. Et actuellement, ce qui se passe, c'est que ils sont en train de réussir à coaliser tous les acteurs des services d'hôpitaux et s'apprêtent, le 14 novembre, il y a une grande manifestation de tous les professionnels de l'hôpital. Mais au lendemain du 14 novembre, ce qui va se passer, c'est qu'il risque d'y avoir, ce qui a déjà commencé dans certains hôpitaux, une grève du codage. Vous savez, les fameuses étiquettes que l'on reçoit lorsqu'on va dans un hôpital et qui sont l'outil par lequel les hôpitaux se font rembourser par la caisse d'assurance maladie tous les frais d'hospitalisation. Donc on est sur le point d'avoir une grève des services de codage qui risque de mettre complètement à plat la situation financière des hôpitaux. Et ensuite, le risque majeur, c'est que ce mouvement de grève extrêmement efficace rejoigne la manifestation du 5 décembre et que on
la
se rapproche
contre les retraites,
mais qui de plus en plus est en train de s'élargir de la question des retraites à une forme de colère sociale, une sorte d'acte 2 de la colère sociale. Il y a eu l'acte 1 avec les gilets jaunes et l'acte 2, ça risque d'être le mois de décembre. Donc l'enjeu est important et moi j'interprète la une du JDD de ce matin comme une sorte de tentative peut-être désespérée d'Agnès Buzyn ou de certains membres de l'équipe de Macron de faire pression pour obtenir des moyens supplémentaires pour lâcher du lest avant qu'il ne soit trop tard et que cette coalition des colères ne donne un mois de décembre absolument horrible comme on en a eu un l'année dernière.
Armelle Le Goff, vous êtes d'accord avec Michel Taube, le gouvernement peut difficilement ne pas lâcher du lest sur le secteur de la santé ?
Ça va être compliqué parce qu'effectivement la séquence n'est pas très bonne avec la perspective de la grève du 5 décembre et s'il y avait une coalition sur le sujet des retraites, ce serait pour le moins compliqué, d'autant que le 10 décembre, je crois que ce sont les internes qui ont annoncé une grève reconductible et on sait que les internes participent grandement à faire fonctionner les services hospitaliers. Donc effectivement, c'est compliqué et en même temps, dans les arbitrages qui sont faits en ce moment, je crois que le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Éducation ont aussi prévenu qu'il y avait des revendications catégorielles et salariales au sein de leur ministère et que voilà, il fallait mesurer aussi ce qui pouvait être donné à l'hôpital public. Sachant que c'est un sujet quand même très fédérateur, effectivement, il y a eu un sondage du JDD il n'y a pas très longtemps qui plaçait ce sujet en tête des préoccupations des Français. C'est vraiment quelque chose, effectivement, l'hôpital public, que tout le monde, auquel tous les Français sont très attachés.
Et Agnès Buzyn devrait annoncer dans les prochains jours un plan hôpital, un nouveau Daïko Doui. Que peut-elle annoncer de plus ? On avait déjà eu un certain nombre d'annonces, notamment sur des primes, juste avant l'été ou en début de l'été.
750 millions, hein.
Puis celui de septembre, effectivement,
voilà,
750 millions.
Millions, mais elle va proposer, a priori, selon JDD, encore une fois, des primes. Mais pas une augmentation de salaire qui est demandée. Elle est demandée autour de 300 euros par les collectifs par mois. Et donc voilà. Et c'est là où s'il y a une augmentation de salaire, il y a une répercussion.
Mais c'est ce que demandent les grévistes.
Les grévistes demandent une augmentation de salaire de 300 euros. Elle est prête selon le JDD
mais
et c'est confirmé par quelqu'un avec qui j'ai eu au téléphone qu'en effet elle cherche à aller vers cela. Mais il y a l'effet d'entraînement que ça peut avoir sur les instituteurs, sur les policiers, les instituteurs, les professeurs aussi, enfin tout le personnel enseignant, les policiers, et voilà, et qui se greffent aussi sur les questions des retraites. Donc il y a une grande peur de la convergence des luttes au niveau du gouvernement à l'heure actuelle. C'est une évidence.
Et cette question de la convergence des luttes sera posée juste après le rappel de l'information, 20h50 sur France Info, le rappel de l'info avec Guillaume Fariol.
Un coup d'envoi dans 10 minutes. Marseille reçoit Lyon en clôture de la 13e journée de Ligue 1 de football. Les deux clubs candidats au podium et séparés de seulement 3 points. Le match s'annonce tendu. Le bus des Lyonnais est caillassé à son arrivée au stade Vélodrome. 13 500 personnes ont participé cet après-midi à la marche contre l'islamophobie à Paris. Des comptes du cabinet Occurrence pour France Info. Manifestation controversée qui divise la gauche. Le PS n'a pas participé. Jean-Luc Mélenchon, chef de file des Insoumis, ou encore Olivier Besancenot du NPA, eux, étaient dans le cortège. Roman Polanski envisage de saisir la justice après la publication d'un témoignage hier dans Le Parisien. Une Française l'accuse de viol en 1975. Le réalisateur dément formellement. Selon son avocat, J'accuse, film du cinéaste, sort mercredi en salle. La promotion perturbée après ses nouveaux soupçons. Jean Dujardin, acteur principal, a annulé sa venue aux 20h de TF1 ce soir. En Bolivie, démission en cascade. Deux ministres quittent leur poste. Le président de l'Assemblée nationale également, son domicile incendié. Le pays dans la crise depuis 3 semaines et la réélection d'Evo Morales à la tête de l'État. Il est accusé de fraude par l'opposition. Le président annonce la tenue d'un nouveau scrutin. Pas de précision sur la date.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Neila Latrousse.
Le projet de loi 2020 de financement de la sécurité sociale arrive mardi en débat au Sénat. Jeudi, les personnels hospitaliers appellent à une grande manifestation à Paris et Bercy prévient ce soir, pas question de reprendre la dette des hôpitaux. François Hernenwein, vous êtes rédacteur en chef et éditorialiste à La Croix. Est-ce que ça effraie la Macronie, cette fronde qui ne retombe pas ?
Sans doute, et je serais à leur place, je serais assez inquiet des tensions sociales. Mais ça pose une question de la méthode, parce que le gouvernement est garant de la paix sociale, donc c'est sa méthode qu'il faut interroger. Dans le cas des hôpitaux, le problème des urgences est repéré depuis longtemps, et plus on laisse la contestation s'installer, plus les revendications évolue vers la hausse. Et on se retrouve assez facilement dans des situations bloquées parce que les 300 euros de prime ou les primes proposées ne seront pas à la hauteur des attentes entretenues elles-mêmes par le climat de contestation sociale. Le sujet est évidemment la gestion gouvernementale, mais ou la vision qu'a le gouvernement Philippe et Emmanuel Macron de ce qu'est l'équité sociale, ça c'est un premier point. Mais le deuxième point, c'est la méthode, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à installer cet empilement de contestation dans un pays parce qu'on laisse les choses traîner, on dit c'est pas possible. Et je pense que l'habileté politique qu'on prête à ce gouvernement et à Emmanuel Macron, elle est un peu émoussée par le mur devant lequel il se trouve aujourd'hui sur le plan social.
Est-ce que c'est pas un manque d'habileté? Parce que simplement, il y a un plan pour l'hôpital, mais simplement qui s'appliquera au-delà de 2020, peut-être 2022. Et ce que m'expliquait quelqu'un, c'est que d'ici là, il faut tenir. Et c'est justement par ce manque d'habileté et de réponse à court terme que le gouvernement veut réformer au long cours, en profondeur, pour des dates, et on le voit avec les retraites, qui sont, qu'on a même du mal à envisager ou à imaginer. Et que d'ici là, il faut tenir. Et le problème du gouvernement, c'est qu'est-ce qu'on fait entre le moment où les réformes qu'il décide aujourd'hui et le moment où elles s'appliquent, comment on fait pour tenir à cette difficulté?
Depuis longtemps, depuis le Moyen-Âge, on appelle ça la soudure. C'est-à-dire, quand on est face à une situation où les choses vont s'améliorer, on organise la transition entre les périodes difficiles et les périodes compliquées. Voilà.
Michel Taube.
Une chose importante cette semaine s'est passée, c'est dans l'interview du président de la République à The Economist, il dit que la fameuse règle des 3% budgétaire n'est plus sacro-sainte et qu'elle appartient à un autre siècle. Est-ce que c'est pas une manière pour lui d'annoncer qu'il a déjà lâché 10 à 15 milliards d'euros suite à la crise des Gilets jaunes? Est-ce que c'est pas une manière d'annoncer prochainement, surtout si le mois de décembre est très dur et que le pays est bloqué? Parce que c'est ce qu'on nous annonce. En fait, beaucoup de cheminots, beaucoup de conducteurs RATP, moi j'en ai discuté avec plusieurs d'entre eux, en fait, ils prévoient que leur 13e mois va être pris par la grève. C'est-à-dire qu'en fait, ils se préparent à un mois de grève pour pouvoir entrer dans un bras de fer avec le gouvernement qui soit très très fort. Donc je me demande si le gouvernement, si on va dans cette direction-là, ne veut pas être obligé effectivement de lâcher non pas 10 ou 15 milliards, peut-être beaucoup plus, et de revenir sur cette fameuse règle budgétaire des 3% pour se donner plus d'oxygène, de marge de manœuvre pour pouvoir répondre aux principaux conflits sociaux qui sont les hôpitaux, la police, la justice, l'enseignement et le pouvoir d'achat du bas des classes moyennes. Il faut aussi rappeler qu'on est dans une période, une année très dure dans le monde entier où les classes moyennes se soulèvent pour se battre pour leur pouvoir d'achat et qu'il y a aussi un contexte mondial. Emmanuel Macron a une vision à 360 degrés, il voit bien dans quel climat on est aujourd'hui et donc peut-être qu'au mois de décembre, ce sera une deuxième heure de vérité pour lui après celle qui est consécutive aux Gilets jaunes.
Et un chiffre pour abonder au débat, d'après le rapporteur général du projet de budget de la Sécurité sociale, à l'horizon 2023, la dette de cette Sécurité sociale pourrait atteindre 47,5 milliards d'euros. François Hernenwein, est-ce que la solution, c'est de laisser filer les déficits ?
Certainement pas, mais d'ailleurs, je ne suis pas l'arbitre des élégances, mais je rappelle quand même qu'Emmanuel Macron a été élu pour réformer la France dans une logique qui consistait à redresser les comptes, en faire un pays respecté sur la scène internationale, un partenaire fiable pour les autres, les alliés européens, les membres de l'Union européenne. Donc s'il commence à lâcher du lest sur cette question-là, c'est ce qu'il a constitué comme agent de rupture dans le système politique français qui se trouvera affaibli. Donc, je reviens à ma démonstration de tout à l'heure. On peut réformer la France si on est guidé par le souci d'équité. Et à mon avis, la manière dont Emmanuel Macron déséquilibré a conduit les réformes plutôt favorables aux riches, telles qu'on dit aujourd'hui, rend cette situation tendue avec laquelle il va devoir vivre quelques mois encore.
Il reste 30 secondes, le mot de la fin. Armel Le Goff, directrice de la rédaction de 20 minutes.
Je dirais juste qu'Emmanuel Macron, qui était le maître des horloges, enfin en tout cas qui s'était présenté comme tel à nous, semble pour le moins débordé depuis la séquence du G7 qui semblait être assez réussie. Et depuis la rentrée, il est sans cesse rattrapé par l'actualité. Et je pense que ça va être effectivement assez compliqué. Je pense que et ça rejoint un petit peu le débat qu'on avait en début d'émission, c'est qu'il y a une nécessité de concorde qui est extrêmement importante et une nécessité d'expression qui va vers ça et de surtout pas aller vers la discorde et ce discours qui est entretenu de dire que les cheminots sont mieux traités que les autres, qu'ils ont des meilleures retraites, qui parlent plutôt. Enfin, il y a un discours quand même qui n'est pas très. Enfin, qui va pas vers une concorde et une cohésion nationale.
Merci beaucoup, Armel Le Goff, directrice de la rédaction de 20 minutes. Merci à nos informé du dimanche, François Ernenwein, rédacteur en chef, éditorialiste à La Croix. Pas de quotidien demain en kiosque, mais toujours La Croix, l'hebdo, avec une enquête sur les écoles.
Une bonne enquête sur les écoles Montessori.
Je l'ai à la main.
Et puis un roman graphique sur Notre-Dame de Paris. C'est passionnant.
Et un entretien avec Lech Walesa, le premier président de la Pologne post-communiste. Voilà, on a tout dit. Daï Kodwi, journaliste politique de France Télé, Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, auteur du livre La face cachée des Émirats Arabes Unis. C'est à paraître jeudi aux éditions du Cherche Midi. Demain, à cette même place, Jean-François Akili, bonne soirée sur France Info.